Bonjour à tous, 14e numéro dans Spectateur déjà, et cette semaine je vous propose une émission spéciale, opéra, à l'occasion du Messie d'Handel qui est joué encore pour quelques jours jusqu'au 14 décembre. Alors autour de la table, mes chroniqueurs qui ont vu pour vous cet oratorio créé en 1742. Irène d'abord, bonjour.
Bonjour.
Florent ensuite, salut Florent.
Salut.
Et enfin, un petit nouveau qui sera notre expert S-Opéra pour cette émission. Il a la lourde tâche de remplacer Jocelyn à ce poste, qu'on embrasse d'ailleurs. Salut Maxime.
Salut.
Alors, ils étaient dans la salle. Ils vous diront ce qu'ils ont pensé du spectacle. Mais avant cela, je vous emmène dans les coulisses de l'opéra, là où tout se joue, pour rencontrer le chef d'orchestre de l'ombre, la bonne fée doublée d'un MacGyver des spectacles réussis, celui sans qui aucune représentation ne serait possible, Patrick Azopardi, qui est un des deux régisseurs de scène de l'Opéra de Lyon et qui officie donc pour le Messie. Alors il est évidemment bien placé pour nous parler d'un spectacle, lui qui collabore auprès du metteur en scène et du chef d'orchestre, c'est-à-dire pour le Messie respectivement Debra Warner et puis Lawrence Cummings. Il collabore tout au long du projet et donc Patrick Azopardi va nous présenter ce magnifique oratorio de Handel, oratorio en trois parties. Mais surtout, il nous parle de son métier de l'ombre. Il va nous faire découvrir toute la mécanique secrète de la réalisation et de l'exécution d'un spectacle à l'opéra. C'est une interview passionnante où il nous livre de nombreuses anecdotes et vous verrez qu'il se passe de drôles de choses lors d'un spectacle, de drôles de choses, alors que vous êtes bien assis dans la salle et que vous ne vous rendez absolument compte de rien la plupart du temps parce que le régisseur de scène et ses techniciens sont là qui veillent avec une devise « The show must go on ». Alors le temps d'un jingle, un petit peu particulier, vous verrez, le temps du célèbre « Alléluia » du Messie d'Handel ou au moins un extrait, qui assure la transition entre la deuxième et la troisième partie de l'oratorio. Et nous nous retrouvons à l'opéra, dans les coulisses. Fermez les yeux et écoutez. Alors je vous emmène maintenant à l'Opéra de Lyon, où jusqu'au 14 décembre, vous pourrez découvrir le Messie d'Handel, créé en 1742 sur un livret de l'anglais Charles Gilson. Alors pour vous parler de ce spectacle, coproduit par The English National Opera et mis en scène par Debra Warner, je reçois Patrick Azopardi, régisseur de scène du spectacle. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, dans son essai « L'opéra ou le cri de l'ange » publié en 2001, Michel Poisat considérait le Messie d'Handel comme le chef-d'œuvre du genre qu'est l'oratorio.
Oui.
On a donc ici affaire à un genre très particulier qui est différent de la cantate ou de l'opéra. C'est donc l'oratorio et avec le Messie, on a la fine fleur.
Absolument.
De ce genre. Et Deborah Warner, la metteuse en scène, elle entend bien respecter ce genre puisqu'elle déclarait « Je ne veux pas transposer cet oratorio en opéra, je préfère bâtir un contexte où la métaphore prend son envol. » Alors, pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire quelle est la différence entre l'oratorio et puis l'opéra ?
Un oratorio n'est pas du tout fait pour être mis en scène. Il est fait pour être chanté dans des églises, des cathédrales. C'est un acte religieux plus qu'un acte musical où on raconte une histoire avec des décors, des costumes, etc. Il n'y a pas... c'est pas un drame, c'est pas... une histoire comique ou un vaudeville, etc. On ne raconte pas ce genre d'histoire. On est dans le divin, on est dans le christique et c'est un acte sacré.
L'âge d'or de l'oratorio, d'ailleurs, c'est le 18e siècle.
Le 18e siècle, oui.
C'est la passion selon saint Matthieu de Bach.
Oui.
C'est le Messie d'Handel. C'est aussi la création de Haydn.
De Haydn,
ça, c'est les
oui.
trois grands noms. Et on voit dans les titres, on est dans le christique, dans le religieux dont
Absolument,
vous nous parlez.
Oui, et dans le sacré, dans le sacral. Et d'ailleurs, Debra tient beaucoup et a beaucoup parler de sacré, de moment sacré. Il y a le moment de la crucifixion où en effet on est dans le sacré. Mmh. Les objets ne sont touchés que par certaines personnes, et c'est l'enfant Jésus qui est représenté par un enfant de la maîtrise en alternance avec un enfant hip-hopper sur scène, qui peut désacraliser en tant qu'enfant Jésus les objets de la crucifixion. Et elle utilise beaucoup la symbolique à ce niveau-là, et c'est très très beau justement.
Et d'ailleurs, l'histoire du Messie, pour le faire rapidement, c'est l'histoire de Dieu,
de
tout
Dieu,
simplement.
Oui, qui naît dans un contexte là magique, on pourra dire. Ouais. On retrouve ça chez Déborah, où elle dit absolument que pour elle, le contexte des gens qui sont sur la scène n'est pas, on ne met pas un projecteur sur ça, c'est Marie, on joue le personnage de Marie, de l'enfant Jésus, etc. Ce sont des monsieur, madame, tout le monde qui, par la magie de ce qui se passe et ce qui est chanté, vont se trouver être la soprano Marie, peut-être, et l'enfant Jésus, un enfant de la maîtrise, et qui vont surgir au milieu d'une foule de monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a pas de soulignage, de surlignage, si on peut dire, ni dans le costume, ni dans la façon d'agir. C'est après, effectivement, ils sortent du lot. C'est parce qu'ils chantent la partie ou parce qu'ils sont effectivement des solistes formidables.
Ils sortent du lot et le Messie sort de l'église aussi.
Absolument.
On l'entend bien.
Oui, 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 oui.
C'est pas juste un monument
religieux. Non, non,
c'est
absolument pas,
que
pas au contraire.
C'est aussi, on pourrait dire, une sacrée musique.
C'est une sacrée musique, oui. Et c'était très difficile pour les choristes d'ailleurs qui sont anglophones mais qui ne sont pas anglais et donc pas à même de connaître par cœur ce genre de partition. La répétitivité des mots et des phrases à redire, mais au cinquième, sixième fois autrement avec une autre note, etc., leur a paru compliqué à apprendre.
C'est parce que dans l'oratorio, on passe des airs au récitatif de
Tout
façon
à fait.
Très soutenue.
Oui,
c'est
oui.
Ça aussi.
Et au cœur.
Voilà, et
aux parties de cœur qui sont magnifiques. Oui.
Et justement, il y a des airs qui frappent dans le Messie, on les connaît tous. Par exemple, l'Alléluia qui fait la transition entre la deuxième et la troisième partie. Ça fait du Messie une musique qu'on retient.
Oui, 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 tout à fait. L'Alléluia, le Valet, le Comfort Vie, il y a chaque partie du ténor et la basse qui fiche un peu la zone dans tout le contexte en train de tirer son alarme et de pousser tout le monde, de bousculer tout le monde. L'alto qui est formidablement belle, ces quatre voix, c'est que quatre voix d'ailleurs, en termes de solistes, sont absolument divines et sublimes.
Ça tombe bien,
ça tombe bien vu le titre.
Et puis on approche des fêtes et on est dans la période de l'Avent et c'est la tradition de donner, quand on doit le donner, le Messie à cette période. Ce qui est assez paradoxal,
oui.
Puisque normalement elle a été écrite pour Pâques. D'ailleurs la première fois qu'elle a été jouée en 1742, c'était
pour la fête de Pâques,
dans le temple de Bar à Dublin. Et donc du coup on a l'impression que c'est une œuvre de saison, mais c'est paradoxal.
C'est paradoxal tout à fait, puisque nous déjà, on regardait à Lyon le 8 décembre,
voilà.
On fête la Vierge Marie et en fait la naissance de Jésus bientôt, et donc c'est quand même là que ça commence l'histoire.
Oui, c'est la première partie.
C'est la première partie
avec les bergers et à Nazareth.
Voilà. Alors scéniquement, Deborah a divisé le plateau en trois, ce qui est très beau à voir. Il y a beaucoup d'utilisation d'images qui permet de se laisser pénétrer aussi par les images sacrées qui ont été peintes ou sculptées ou gravé dans le bois au cours des siècles passés,
ou
des projections qui sont faites sur des écrans. Et en même temps, sur le plateau, on a trois zones, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'appartement de Marie, qui est un appartement comme aujourd'hui on pourrait trouver un appartement avec une télévision, un lit, des bancs, de quoi s'asseoir et puis de pouvoir boire un cocktail, par exemple.
La
Marie habite là, voilà. C'est une Marie, madame, tout le monde. Et puis au milieu, il y a l'église qui se construit. Et de l'autre côté de la Seine, il y a l'hôpital où va naître Jésus. Et tout ça est en même temps conjugué dans les trois espaces, en même temps par les danseurs, par les chanteurs, les choristes. Et c'est assez intéressant.
C'est ça, d'ailleurs, Deborah Warner, elle a ces mots à propos justement de Marie. Elle dit une jeune mère accouche d'un bébé. Y a-t-il quelque chose de plus universel et de plus joyeux que cela? On voit donc des choses ordinaires de la vie, l'amour, la naissance, la mort, avec en sus cet élément extraordinaire quand même, la résurrection à la fin. C'est ça le point de vue de Deborah Warner sur le Messie. Certes, c'est une histoire de Dieu, mais à taille humaine.
À taille humaine, tout à fait. Et elle y tient beaucoup. elle y tient vraiment beaucoup. Il y a eu d'ailleurs une petite discussion à propos des rôles, on change de rôle, qui est l'enfant qui fera l'enfant Jésus, etc. Et elle a dit, mais pourquoi vous mettez l'étiquette enfant Jésus? C'est un enfant, il se trouve qu'il sera peut-être Jésus, mais c'est d'abord un enfant, c'est un être humain, comme tous les autres. Mais à un moment, il est Jésus.
C'est ça. Voilà. C'est, on met l'accent sur le côté universel,
universel
de cette représentation. Oui, et d'ailleurs,
la force de l'amour, la force du divin.
Vous parliez de ces écrans tout à l'heure, qui font partie prenante du décor. Ils participent à ça parce qu'on creuse l'espace, on ouvre l'espace et on donne d'autres dimensions. Vous parliez de tableaux, par exemple, de primitifs italiens qui vont être projetés. Mais il y a aussi des toits.
Adam et Ève, il y a.
Il y a aussi des toits d'une mégalopole moderne qui
sont projetés. Tout à fait, pour montrer qu'on est quand même dans un monde d'humains et que l'humain est rempli la planète et que c'est d'abord ça qui compte, qui est le plus important.
Alors, le décor, ça fait partie de votre travail, en grande partie.
De le faire manipuler.
Voilà, de le faire manipuler. Oui. Parce que si la direction musicale jusqu'au 14 décembre sera assurée par un chef d'orchestre, Laurence Cummings, on peut dire qu'il y a un autre chef d'orchestre dans cette histoire pour diriger cette histoire de Dieu à hauteur d'homme, pas sur scène, dans l'ombre, dans les coulisses, c'est vous.
Oui, disons que c'est nous, la régie de scène, qui faisons... On nous compare à des sortes de pilotes de bateaux, de grands navires qui est le spectacle. D'un côté, il y a effectivement le chef d'orchestre qui dirige tout ce qui est musical, et nous, on dirige tout ce qui est technique, mouvement, entrée, sortie des artistes, des techniciens, que ce soit du décor, donc de la machinerie, de la lumière, de la vidéo en plus, du son, des artifices, puisqu'à la fin, ça finit sur un joli... tomber, lâcher de comment on peut dire, de glitter, on dirait en anglais, de choses qui brillent. Voilà, c'est la touche finale sur l'Alléluia à la fin. Ouais. C'est nous qui pilotons tout ça. C'est-à-dire que sans nous, sans la régie de scène, il n'y a pas de spectacle. C'est pas possible. Ça devient un concert. Alors, et encore, même là, on a besoin de nous.
C'est justement l'occasion de faire un point sur ce métier qui est assez mal connu, comme la plupart des métiers de l'ombre dans le métier des spectacles, il faut bien le dire. Celui donc de régisseur de scène. Voilà. Et on va voir que vous êtes important du début à la fin du spectacle.
Absolument.
Et ça commence avant le spectacle.
Oui.
Parce que vous avez la charge d'assister la metteuse en scène, donc là Deborah.
Oui.
Et notamment même avant, dans la construction du spectacle, vous réalisez ce qu'on appelle un cahier de régie.
Oui, alors c'est un conducteur, c'est notre conducteur, il y a le conducteur du chef d'orchestre, c'est sa partition, il y a toutes ces petites notes à lui personnelles sur la façon de diriger chaque instrument. Bien, nous, on a une autre partition qui est une piano chant sur laquelle on va noter toutes les volontés, les désirs et les décisions qui ont été prises en termes de lumière, ce qu'on appelle un effet lumière, et on va toper, c'est-à-dire donner l'ordre par le mot top à l'électricien qui est en cabine d'envoyer cet effet. Donc on donne les tops pour la lumière, pour les images, donc la vidéo, c'est un autre canal, pour le son, quand il y a des micros à ouvrir, à fermer, et aussi pour la machinerie, et aussi pour les accessoires, et aussi pour les entrées et les sorties des artistes, des techniciens, la préparation du spectacle avant, la mise en place du décor, de tout ça. Donc on est une sorte de pilote topper
La bonne
sur le
spectacle.
Plateau. Voilà, tout à fait. Dire. Une fois qu'on est parti sur le début du spectacle, d'ailleurs on le pilote déjà avant, l'entrée du public, la préparation des maquillages, des costumes... Ça a commencé déjà depuis une heure, le matériel en scène. Nous vérifions tout et nous organisons tout. On est dans cette sorte de console sur la scène, en coulisses, qu'on appelle le poste de commandement, avec lequel on communique. C'est une sorte de pupitre, avec des tas de boutons et de casques. Et on peut communiquer avec tout le monde, le public, tout le monde dans le bâtiment côté artistique et technique, et puis tous ceux à qui on donne des ordres pour faire fonctionner le spectacle.
Alors magiquement. Je disais, avant le spectacle, vous avez aussi un rôle dans la création. Vous êtes le bras droit, on va dire,
du metteur en scène. Oui, voilà. On est entre elle et son assistant, et puis les chorégraphes, etc. Nous sommes les garants de tout ce qu'elle aura voulu décider, et on va l'aider à le réaliser, en
quelque
sorte.
Vous le faites.
Voilà, on le note, on fait en sorte que tout fonctionne comme elle le voudra.
Et alors pour le Messie, comment s'est passée cette collaboration avec Deborah Warner?
Alors c'était un peu différent dans la mesure où elle a déjà créé le Messie, ouais, cette production-là à Londres, mais ouais, pour elle c'était pas vraiment une reprise normale, c'est-à-dire on faisait comme ça, ben on va refaire pareil. Non, elle a tout refait la première partie et elle l'a fait aussi en fonction des artistes qui étaient là, des
chœurs. C'était une réadaptation.
C'était une réadaptation, une reprise recréée, si on peut dire. Donc du coup, on l'a aidée, effectivement, nous, les régisseurs de scène, on a fait en sorte qu'elle puisse avoir sous la main et à disposition autant de facilité que possible pour pouvoir avoir les artistes, les techniciens, les accessoires, tout en ordre de marche pour que ça fonctionne. Oui.
Alors en tant que régisseur de scène, vous êtes aussi chargé de tout ce qu'il y a pendant, c'est-à-dire l'organisation de la tournée et la logistique.
Oui.
Donc c'est vous qui l'avez accueilli, c'est vous qui avez accueilli ce troupe.
Absolument, on a accueilli les chanteurs, on leur donne toutes sortes d'informations jusqu'aux médecins. Le jour de la première, il y a eu 3 accidents, on leur a trouvé des médecins pour les soigner, pour les blessés, les ostéopathes, etc.
C'est quel genre d'accident?
Alors, il y a un danseur qui a eu 3 vertèbres déplacées pendant le spectacle et qui a eu un muscle un peu torsionné. On l'a envoyé chez... Il voulait voir un ostéopathe et il a été... Ça allait mieux. J'ai pris des nouvelles après. Il y a l'alto qui est tombé. Elle avait mal au genou. Donc, pareil, elle voulait voir un kiné. Il y a une figurante qui s'est tordue la cheville. Pareil, on a toutes sortes de casquettes à ce niveau-là. J'ai tout un dossier de gens très efficaces qui travaillent pour nous en urgence, parce que l'urgence, c'est de pouvoir jouer ce soir.
Et, oui, et on ne se doute pas de tout ce qui peut se passer justement
en coulisses.
Ces imprévus.
Oui, il y a beaucoup d'imprévus. Et par exemple, le jour de la première, on en a eu pas mal que le public ne voyait pas, ne savait pas, mais nous avons eu des pannes... ce que nous appelons l'intercom, par exemple, ce qui nous permet de communiquer entre tous les techniciens et nous.
Ah oui.
Donc, on ne pouvait plus...
Donc là, pour toper...
Pendant quelques secondes, on n'a pas pu toper, oui, en effet. Donc, heureusement qu'il y avait d'autres relais. Et en urgence, on a pu faire pallier à ça, quoi, faire une réparation d'urgence. On a dû changer le bloc électrique. Enfin, il y a eu des petites pannes comme ça. On pourrait dire des micro-pannes, mais qui nous ont pas mal stressés, qui ont fait courir beaucoup de monde, mais que le public n'a pas vu du tout.
Et oui, parce que show must go on.
Absolument, le show must go on.
Alors, on le dit et on le voit, vous êtes le maître des coulisses.
Oui.
Et quelque chose qui m'a frappé en me renseignant un petit peu sur votre métier, c'est que vous avez aussi en charge, dans ce monde de musique, de faire régner le silence.
Oui, ça c'est terrible. Le mot silence qui est écrit partout et qu'on essaye de faire respecter, parce que malgré tout, les humains sont des humains et dès qu'ils sont en coulisses, ils oublient que sur scène, juste à côté d'eux, il y a un spectacle en déroulement et ça peut être des gens qui le respectent. Normalement, si on leur parle individuellement, le phénomène de groupe fait qu'effectivement, il y a du bruit par-ci par-là. Ça peut être du bavardage, mais ça peut être simplement un objet qui tombe ou quelqu'un qui marche trop vite sur un bout de bois. Ou ce silence doit être absolument respecté, en effet.
Silence d'or, c'est la règle.
C'est la règle sur scène, oui.
Pour justement aider les acteurs et les chanteurs qui sont sur scène et
à s'exprimer.
Les aider aussi,
oui,
au moment où ils doivent rentrer, vous,
oui,
les guider, vous les
assister. On les top, absolument, on les top eux aussi. C'est-à-dire qu'on est là pour, premièrement, vérifier, les appeler pour qu'ils soient prêts au bon moment, avec ce qu'il faut dans leurs mains s'ils ont des accessoires, les costumes corrects, s'il y a besoin d'un raccord, une réparation de leur maquillage ou de leur perruque, peut-être quelque chose à retoucher, mais aussi de leur faire entrer en scène, c'est-à-dire de leur dire top à eux aussi, vas-y. C'est à toi.
Et parfois aussi de les aider pour leur texte.
Leur texte, ça peut arriver. Alors, dans notre partition, ce qui est une partition unique sur une production, c'est que notre conducteur à nous a toutes les informations de mise en scène, de les entrées, ce qu'ils font, à tel moment tu t'assieds. Il y a tout écrit dedans. Autant les effets que nous devons toper, comme je disais tout à l'heure, lumière, etc., mais aussi ce que font les artistes.
Finalement,
ce que font les techniciens à ce moment-là.
C'est vous qui avez la conscience la plus grande du spectacle.
Oui, c'est dans notre partition qu'il y a tout.
Ouais.
Tout est noté et on peut la mémoire de ce qu'est ce spectacle.
Alors, on parle du Messie depuis tout à l'heure. C'est évidemment pas votre premier spectacle.
Non.
Vous en êtes à combien de productions? Je vois derrière vous beaucoup de documentation.
Je ne les ai pas comptées, mais ça fait 20 années de régie, donc il y en a pas mal. Des très compliqués ou plus simples. dans les genres Porgy and Bess, qui était extrêmement compliqué parce qu'il y avait aussi des écrans, des images, mais aussi beaucoup de mouvements de cintres, c'est-à-dire des décors, des toiles, des tulles, etc., qui descendent, qui montent en même temps que les humains, donc les choristes, les artistes bougent, avec toujours le risque d'accident, le risque effectivement de télescopage, mais aussi en termes de temps et de résultats, faire en sorte que le public ait un spectacle absolument magique. Et c'est pas toujours simple. Entendre par là jusqu'à 400 effets lumière qu'on top, des centaines d'effets, quand c'est pour Porgy and Bess par exemple, des centaines d'effets en correspondance en vidéo, donc 400 lumière donne à voir 200 à 300 en vidéo, plus tout ce qui est machinerie, qui est à peu près une centaine, tout ça pendant 3 heures.
Il faut évidemment pas en louper un.
Pas en louper un, et rester concentré, et s'il y avait un pépin. Si on me dit au casque « ça part pas », ben il faut qu'on puisse pallier à ça et on continue parce que le show must go on et que personne ne va arrêter le chef d'orchestre pour dire « excusez-nous, on a un petit souci ».
Comment vient cette idée de faire ce métier? Parce qu'on le voit, ce n'est pas un métier très connu. Pourtant, c'est un métier certainement passionnant, exigeant,
c'est passionnant, oui.
Très fatigant. Ouais. Mais comment vient l'idée de faire ce métier?
Alors, l'idée ne m'est pas venue personnellement à moi. J'y ai pensé, j'ai des collègues qui ont fait ce métier aussi. J'étais personnellement un artiste d'abord, j'étais danseur, donc je connais la scène
par la
poussière, oui, je dirais par la danse en l'ayant pratiqué, donc je comprends et je sais très bien ce que vit un artiste,
quand
ce qui aide beaucoup quand il rentre sur scène, voilà, exactement. Mais c'est monsieur Jean-Pierre Brossman, l'ancien directeur de l'Opéra de Lyon, qui m'avait appelé dans son bureau. Il m'a demandé si j'étais intéressé de faire ce métier. Et j'avais dit, provisoirement, pourquoi pas, je veux bien essayer. Voilà, c'est comme ça que je suis passé de la scène sous les projecteurs à la scène en coulisses.
Alors, vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez
énormément
dû apprendre beaucoup, vous avez appris sur le tas.
Sur le tas, oui.
Et on le disait avant, pendant, après.
Et après,
finalement,
il faut
c'est pas
archiver.
Métier, c'est votre vie.
C'est notre vie, absolument. Nous, les régisseurs de scène, par rapport aux techniciens, par exemple, si on réfléchissait en termes d'heures et d'horaires et de façon de travailler, on fait partie de cette catégorie bizarre où on ne devrait pas pouvoir compter les heures parce qu'on ne peut pas. Ouais. Quand tout le monde s'arrête, quand les techniciens ont fait leurs 12 heures de travail, ben nous, entre-temps, on a des discussions, des mises au point à faire avec le metteur en scène, comme on disait tout à l'heure, l'éclairagiste pour tout ce qui est lumière, le vidéaste, le costumier, enfin chaque corps de métier, chaque créateur. Et puis l'organisation à l'envers, puisqu'on est au centre du sablier, à communiquer tant vers le haut que vers le bas. Faire savoir que toute cette organisation a changé, ben, faut la mettre en place, faut la faire connaître, il faut saisir des tas de conduites et de planning et d'autres choses, les organiser, parce que nous sommes la clé de tout le fonctionnement, sachant que dans chaque corps de métier, on a un règlement différent aussi, des façons de travailler différentes, des horaires différentes. Le chœur a une pause de 2 heures alors que les autres en ont d'une heure et demie, etc. Donc il faut faire correspondre tout pour que justement le metteur en scène puisse avoir des répétitions qui fonctionnent normalement.
Les 35 heures, vous ne connaissez pas?
Sur le papier, oui.
Mais en vrai, pas vraiment.
En vrai, pas vraiment. Non. Disons qu'on fait partie de cette catégorie. C'est un peu comme un chef d'orchestre qui pourrait... Comment pourrait-on dire attendez, j'ai fait mes heures. Au revoir. Vous n'aurez pas c'est le deuxième acte aujourd'hui. Ou qu'une partie.
Voilà.
Non, mais c'est bien. Mais c'est un métier à responsabilité. Après, c'est chacun avec sa conscience.
Est-ce qu'il n'y aurait pas, pour finir, on va finir sur un peu d'anecdotique, après avoir touché au sac tout à l'heure en présentant le Messie, une anecdote, le pire problème qui a pu vous arriver?
Au pire, il y en a eu pas mal, mais je peux peut-être en donner trois peut-être. Louis Langrée, on était en train de faire la Bohème, c'était l'année où il y avait toutes ces orages et ces tempêtes incroyables l'hiver.
99,
on était là avec des arbres qui tombent sur les trains, dont le sien. Il rentrait de Besançon, c'était un dimanche après-midi, et il saute dans un taxi. Heureusement, en faisant le train, il ramasse une violoniste aussi. Il arrive à peine à temps, 20 minutes avant le lever de rideau pour commencer. Et comble de comble, ce jour-là, faut savoir que quand il rentre dans la fosse au moment de commencer le spectacle, on a une bascule de lumière, la salle passe au noir, lui, il s'éclaire plus, il a des projecteurs pour qu'on le voit. Et à ce moment-là, un des projecteurs s'est éteint, a grillé. Et moi, j'ai un petit écran pour le voir. Et on a un petit téléphone entre lui et moi qui est une sorte de téléphone rouge.
Ouais.
C'est-à-dire qu'un des deux décroche, ça clignote rouge de l'autre côté.
Comme à la Maison
et
Blanche.
Voilà. Et au lieu de voilà, exactement. Et au lieu de commencer, il se retourne. Je vois qu'il regarde vers le haut. J'imagine que ce projecteur est grillé. Donc, j'envoie tout de suite quelqu'un réparer, ce qui veut dire monter 6 étages à pied dans un escalier en colimaçon. Ouais. C'est toucher un projecteur qui est bouillant pour changer l'ampoule.
Ouais.
Pendant ce temps, lui, il est dans le silence et il s'accroupit, il disparaît de l'écran. Donc, je prends le téléphone, je parle avec lui, je dis, mais tu peux commencer. Il me dit, non. Là, on ne me voit pas. Je dis, mais si, t'inquiète pas, on va te voir. Il y a un électricien qui court dans l'escalier. Non. Tant que ce n'est pas allumé, je ne pars pas. Mais dès que ça s'allume, je pars. Donc, l'électricien change l'ampoule, le projecteur s'allume, il saute comme sur un ressort et il démarre, qui ne m'a même pas donné à moi le temps de démarrer. La seconde d'après, on continue un petit peu, puis j'ai toujours cette caméra sur lui en gros plan, parce qu'il faut savoir que souvent les chanteurs ont besoin de voir le chef d'orchestre en direct, et comme ils ne peuvent pas toujours le voir en direct, selon la mise en scène, on a des petits moniteurs pour le dupliquer un peu partout. Et bien moi aussi, et je vois son visage qui s'assombrit de l'autre côté, le projecteur de l'autre côté avait grillé, voilà.
Donc rebelote,
mais de l'autre côté, côté jardin. Pareil, un électricien qui monte, évidemment, à l'entracte, il était furieux.
Ouais.
Voilà. Ça, c'est une petite anecdote. Une autre, c'est que souvent, de plus en plus souvent, on utilise le rideau de fer. Le rideau de fer est un élément de sécurité, un coupe-feu,
ouais,
comme élément de décor. Souvent, ça plaît au metteur en scène. Et il y avait une production, Albert Ehring, où on devait descendre ce rideau de fer qui nous permettait de changer un décor derrière, sans que le public entende le bruit que ça faisait.
Ouais.
Pendant ce temps, le chanteur, le ténor, était devant, sur une petite passerelle au-dessus de la fosse d'orchestre, chantait. Et normalement, à la fin de son air, je donnais le top et le rideau de fer se levait. Ce jour-là, l'électricien me dit « Merde, ça part pas !» Évidemment, on a un grand silence. Je vois le chef d'orchestre devenir blanc, se demander ce qui se passe. Je prends le téléphone. Pendant ce temps, il faut aller très vite dans notre tête. J'envoie le gars de la sécurité, puisque c'est un élément de sécurité, de l'autre côté pour voir ce qui se passe. J'ai le directeur qui me tombe dessus. Que se passe-t-il? Il faut l'informer. Il voulait informer le public. Je rassure le chef d'orchestre par téléphone, avec notre petit téléphone rouge, et le chanteur qui était bloqué devant, qui essaie de sortir. En réalité, c'était une histoire de temporisation et il fallait tenir la clé un peu plus, etc. Le temps que tout ça se déclenche, le rideau de fer est parti, c'est levé. Voilà. Mais il y a eu un moment de peur et de moment où le chef d'orchestre demandait ce qui allait se passer. Voilà.
Et il faut réagir vite.
Et il faut réagir vite. Et une troisième anecdote, alors, c'était un jour de la première du Roi Malgré Lui. Il y avait des fusibles qui ont sauté, qui ont disjoncté, qui ont grillé, quoi. Et l'étoile ne descendait pas. Et ça, le Saint-Tri me disait, le prochain effet, la toile numéro 3, elle ne descendra pas, ça a grillé. Le temps qu'on aille dans l'armoire électrique changer, ce n'était pas possible. Alors, il faut jongler dans sa tête, se dire, effectivement, pendant que je pilote, je suis ma partition, dans les prochains effets, il va y avoir tel effet qui correspond à une toile qu'on n'éclairera pas puisqu'elle n'est pas là. Donc on va essayer de sauter l'effet, etc. Il faut s'adapter, voilà. Quand on arrive au bout du chemin et que c'est les applaudissements des saluts, on respire fort. Oui.
Merci beaucoup Patrick Azopardi d'avoir partagé toutes ces anecdotes avec nos auditeurs au micro d'En Spectateur. Pour donc l'oratorio Le Messie d'Handel, que vous pouvez aller voir jusqu'au 14 décembre, chers auditeurs. Merci de nous avoir emmenés donc de l'autre côté du rideau,
oui,
en coulisses.
Avec plaisir.
Merci.
Au revoir. Thank you.
Alors on en parlait à l'instant avec Patrick Azzopardi, un autre air célèbre du Messie, c'est son ouverture, Comforting My People, et c'est ce que vous venez d'entendre à l'instant. Alors en spectateur, pour ce 14e numéro, aspire au sacré, en cette période de l'Avent, quoi de plus normal. Quelques jours en plus après le 8 décembre, nous avons tous, bien sûr, pris place à la traditionnelle procession pour remercier Marie. En tous les cas, où nous sommes allés à l'opéra, écouter le Messie d'Handel, mis en scène par Deborah Warner, une histoire de Dieu, de sa naissance à la passion, jusqu'à la jubilation de la résurrection, mais une histoire de Dieu qu'elle a voulu à hauteur d'homme, à l'image de ce petit garçon, Jésus, qui deviendra Christ, et qui, sur la scène, est incarné certains soirs par un enfant de la maîtrise et certains autres soirs par un enfant hip-hopper. Alors c'est ce que Deborah Warner a voulu faire ressortir, c'est cette universalité du Messie, de son message autant que de sa vie, et elle nous a plongé dans un univers moderne pour cela, à l'image de cette Marie qui va à l'hôpital pour accoucher, ben oui. Une pièce qui parle à tous, qui parle d'amour, de naissance, de mort. Quoi de plus humain, en somme, si ce n'est la fin et la résurrection et les éléments surnaturels et surhumains, s'il en est. Alors, il y avait de la poésie à l'opéra, normalement. Est-ce que vous avez été sensible à cette histoire de Dieu à hauteur d'homme, réalisée par Deborah Warner ? C'est toute la question et je me tourne vers toi, Florent, pour y répondre.
Alors oui, alors d'abord moi je me suis dit que c'était pas parce qu'on approchait de Noël et que ça parlait du Fils de Dieu qu'il fallait commencer à faire des exceptions. Donc je suis allé à cette pièce avec un esprit vide en faisant comme si je ne savais pas qui était le Fils de Dieu, voilà. Donc je vais tenter de faire une chronique comme si j'avais.
Qui est très intelligent de ta part quand même.
Ah oui.
Comme démarche critique magnifique.
Ah j'ai fait un effort. C'est très très brechtien, je pense qu'on peut le dire.
Je pense, oui.
Donc Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bon alors c'est sûr, comme scénario, c'est un peu court. C'est pas facile de faire une grande œuvre là-dessus, je ne te le cache pas, ça relève du difficile. Il faut broder, étaler, agrandir. Mais enfin, on a bien vu des histoires tenant en une seule phrase avoir un grand succès, du type « L'enfer, c'est les autres » ou encore « En fait, le psy, c'est un fantôme », voire « Jack est schizophrène et il se tape tout seul derrière les restos-routes ». Les trois ont pas mal marché, donc finalement, malgré la concision du synopsis, il y avait moyen de faire quelque chose de bien là-dessus. Même si cette histoire de sauveur du monde, ça sentait le réchauffer, genre grande production hollywoodienne. Après, bon, rien de bien original, comme l'a dit Thomas, découpage en trois parties, hein. Un truc sur la naissance du héros, puis la mort du héros, un certain Jésus. Alors là, comme moi, t'es bailli, tu te dis, mais merde, putain, comment ils vont faire pour la troisième partie maintenant qu'ils ont tué le héros, c'est qu'on l'a en plein milieu.
C'est vrai
là...
que t'es vraiment très très vulgaire comme mec, en fait. Hein. Même dans ta tête quand tu te parles. Hein.
Voilà, mais oui, non, mais c'est vrai, non, mais c'est... j'essaye de parler au peuple, tu vois, un peu, parce que
oui.
C'est vrai que le Messie, a priori,
bonne
a pas
idée,
bien.
Ouais.
À hauteur d'homme.
Donc voilà, à hauteur
merci,
d'homme.
Irène.
D'homme du peuple. Et donc tu te dis, mais merde, comment ils vont faire pour la suite ? Et là, bim bam boum, retournement de situation. Le héros, en fait, il ressuscite, il sauve le monde de la mort. On a beau dire que ça fait un peu Deus Ex Machina, ça a quand même de la gueule. Alors la musique est pas mal réussie. Handel, qui ne semble pas en être à sa première bande originale, compose une musique assez joyeuse. Même la souffrance de Christ, le personnage principal, ne semble pas avoir trop touché le compositeur. Ou alors, comme c'était une composition pour Noël, il a fait un effort et fait chanter dans les chaumières sur le mode « Il est mort, le divin enfant, mais c'est pas très grave, il va bientôt renaître ». Enfin bon, tous les personnages ont l'air au courant qu'il va ressusciter dès qu'il meurt au troisième acte. Moi je savais pas, j'étais un peu triste quand il meurt comme quand j'ai vu Boromir au début du Seigneur des Anneaux. Vous voyez, j'étais vraiment détruit. À propos les copains, je crois que ce Handel, il en est pas à son coup d'essai. Il y a une chanson là, le Alléluia, qui est dans le Messie, je la connaissais déjà, donc je pense que ça devait être une pub pour SFR avant. Il a aussi fait la bande-son d'un film de Kubrick. Comme quoi, tu te cultives bien en écoutant cette émission, tu viens d'économiser 15 minutes à chercher sur Wikipédia pour savoir qui c'était. Donc bon, la musique, ouais, c'était pas mal, juste le côté dark de l'histoire a un peu passé à la trappe, et la majesté redoutable est transformée en un copinage de presbytère. Mais alors la mise en scène, là, bon, il y avait le côté Noël dans la musique, ça je suis d'accord, mais après, ça devient carrément bizarre. Je pense que la metteuse en scène, Deborah Warner, si tu veux tout savoir, elle a aussi laissé tomber le côté souffrance du Christ complètement. Pour elle, la vie, c'est nettement une fête. Elle a eu des bouts d'idées qui partaient dans différentes directions, puis elle a pas sélectionné, elle a tout mis, paysage dévasté, réconciliation en mode Teletubbies... Des câlins pour fêter la future destruction des rois par la colère de Dieu, fond d'écran Windows géant avec arbre doré, crèche jouée par des enfants déguisés en lapin, Marie, la maman du héros sur un lit d'hôpital, et le spectacle de Noël se finit par une neige dorée sur le public. Je m'attendais même à ce que Papa Noël distribue des cadeaux dehors après tout ça, mais apparemment, c'était pas le bonsoir. Il faut quand même rendre à JC ce qui appartient à JC. Il y avait de très belles images, très réussies. Mais quelques trucs m'ont particulièrement choqué quand même. Pendant toute la pièce, il y avait un enfant de 8 ans qui devait être une guest star célèbre parce qu'il était plus applaudi que le chef d'orchestre alors qu'il chantait pas, qui faisait des apparitions régulières pour serrer la louche à tous les comédiens et sauter sur des lits avec ses chaussures, ce qui m'a un peu agacé parce que Noël, c'est la fête des enfants sages et typiquement sauter avec ses chaussures sur un lit, c'est en général pas ce qu'on t'apprend, c'est pas un modèle tip-top pour les quelques enfants qui étaient dans la salle.
C'était le petit Jésus ?
Oui, bah alors ça, bon, voilà, hein, ça, il paraît, mais alors le petit Jésus qui est toujours enfant au moment où il meurt adulte, enfin moi, j'ai pas, enfin je connaissais pas l'histoire, tu vois, mais ça m'a quand même laissé un
perturbé.
Bah la frise chronologique était pas entièrement respectée, tu sais, en tant qu'historien, je tiens à ce qu'elle soit suivie. Donc, autre moment étrange. Alors, je vous resitue la scène, bam, Jésus ressuscite sans effet pyrotechnique, et là, paf, le décor de souffrance se transforme en pelouse sur fond de ciel bleu. Il manquait juste les icônes de la suite Office et la corbeille dans le coin gauche, et on avait un sublime fond d'écran Windows. Et là, bon, tout le monde se réjouit, normal, le copain Jésus est revivant. Et d'un coup, il y a des mecs qui viennent faire du breakdance sur la pelouse et ils repartent. Bon, c'était quand même un peu, il y avait de quoi laisser perplexe. Apparemment, de ce que j'ai entendu à la sortie, il y avait pas mal de gens qui connaissaient déjà l'histoire et qui ont quand même apprécié. Ils avaient déjà lu le bouquin. En tout cas, à mon avis, si vous avez entre 7 et 77 ans, n'allez pas voir ce messie, relisez le bouquin chez vous en écoutant la musique de Handel tout court. Vous économiserez un billet d'opéra.
Relisez la Bible donc. Merci Florent. Alors Maxime, est-ce que tu es d'accord avec Florent? La musique de Handel, elle était pas mal réussie, pour le citer.
Comment dire? D'un point de vue musical, il faut déjà préciser que l'acoustique de l'Opéra de Lyon n'est pas exceptionnelle. Plus dérangeant niveau vocal, ça posait problème. Des quatre chanteurs principaux, donc on avait un ténor, une basse, une soprano et une mezzo. Enfin, une mezzo. La soprano s'en sortait très bien, mais le chanteur de basse était, comment dire, incarné peut-être par une chèvre à l'intérieur de son estomac qui le faisait brailler sur les mélismes d'une manière assez peu agréable, notamment dans le premier acte de l'oratorio. La musique est excellente et je suis pas tout à fait d'accord avec Florent quand il dit que c'est joyeux tout le temps, parce que quand même, Handel a écrit cela après une crise d'apoplexie, et c'est autant la résurrection du Christ que sa propre résurrection qui est à l'œuvre dans cet oratorio, puisqu'il a écrit en 3 semaines, dans une période de grande, grande intensité créatrice, après avoir pratiquement succombé à une crise d'une grande violence. Et certains passages de l'œuvre sont profondément lents et tristes, avec notamment des basses obstinées ou des éléments de musique de composition typiquement baroque qu'on peut difficilement qualifier de joyeux. En effet, au moment de la résurrection, à la fin de la pièce, c'est plutôt une atmosphère d'allégresse qui domine. Mais sur l'ensemble de l'œuvre, c'est pas le sentiment qu'on retient.
Alors, pas musique de Noël non plus, ce qui est paradoxal d'ailleurs, c'est que la tradition veut qu'on donne le Messie à l'époque de Noël, alors qu'il a été écrit pour les fêtes de Pâques, il a été donné la première fois en 1742 dans le temple de Durham à Dublin, pour les fêtes de Pâques, et donc c'est pas du tout une musique de Noël comme tu peux le présenter, même si traditionnellement ça a été attaché à Noël. Alors, tu nous as parlé de la musique, Maxime, qu'est-ce que t'as pensé toi de la mise en scène de Deborah Warner, une mise en scène donc assez moderne, mais avec ce parti pris effectivement de vouloir faire ressortir l'universalité des personnages et avec la fausse illusion de donner à voir à la place de Marie une femme, à la place de Jésus un petit enfant.
C'est vrai que sans vouloir paraître réac, à l'origine c'est quand même une pièce liturgique, religieuse, sacrée, donnée dans des églises ou des cathédrales, chantée par un chœur et quatre musiciens et accompagnée. Qui n'est pas particulièrement prévu pour une mise en scène.
Non, pas du tout, c'est la différence entre l'oratorio et les cantates ou les opéras.
Et la tendance contemporaine et actuelle, c'est de s'amuser à renverser ces codes et à mettre en scène ce genre de pièces. J'avoue que j'y allais avec un certain a priori, une certaine appréhension, parce que je préfère des représentations traditionnelles et classiques de ce genre d'œuvre.
En version concert, quoi.
Voilà. Et ici, on peut raisonnablement parler de demi-échec, je pense. Y a de très très belles réussites visuelles, notamment dans la mise en scène. Moi, j'aime bien le jeu avec les écrans qui montent, qui descendent, qui sont coulissants pendant tout le long de la pièce, qui peuvent servir de fenêtres, de projection ou simplement d'illustration. Mais vouloir à tout prix rendre quelque chose de sacré, de divin, en quelque chose de trivial, en fait, de humain, de mortel, de... C'est un peu, je sais pas, très réducteur pour la pièce et on s'y perd, notamment cet enfant, comme l'a souligné Florent. On ne voit pas du tout dans la pièce que c'est le petit Jésus, parce que c'est comme s'il y a un dédoublement de l'histoire en fait. Lui, il est tout le temps là, il bouge pas, et l'histoire continue elle d'avancer. Donc, et c'est vrai qu'un petit enfant qui saute un peu partout, on a du mal à se faire une idée que c'est le petit Jésus.
Et c'est ce que disait Patrick Azopardi dans l'interview qu'il donnait, et que vous avez écouté juste avant, chers auditeurs, c'est qu'il y avait ce parti pris qui est effectivement assez bancal. À la fois, c'est le Messie, donc on sait, il y a Marie, il y a Joseph, il y a Jésus, et cette volonté de Deborah Warner de faire croire que cette femme, c'est n'importe quelle femme, et qu'on ne sait pas où est Marie, et que cet enfant, c'est n'importe quel enfant, et que ça pourrait être David, et il se trouve que c'est un petit Jésus. Et toi, Irène, est-ce que tu as trouvé que ce défi, qui était quand même de taille, mettre en scène un oratorio, une forme qui n'est pas du tout prévue, qui n'a pas de dramaturgie propre, on va dire. Est-ce que le défi est relevé ou est-ce que tu parles de semi-échec, comme le disait Maxime à l'instant ?
Je suis d'accord avec Florent et Maxime pour dire que cette pièce, cette mise en scène m'a laissé perplexe. Et c'est une sorte de spectacle de Noël hétéroclite auquel j'ai assisté. Mais cela dit, je crois que le parti pris de Deborah Warner n'était pas un simple caprice, car il faut savoir que le Messie, c'est la pièce en tant que telle, même si c'est un oratorio, prend place à un moment spécifique dans l'histoire de la musique où l'oratorio est en concurrence, a été créé pour concurrencer l'opéra profane, et donc emprunte à l'opéra profane énormément de schémas. Et notamment dans la dramaturgie.
C'est l'oratorio qui sort de scène. On aura la même chose avec Hind et la création, où là c'est carrément un oratorio qui est monté sur scène, enfin qui est prévu pour.
Oui. Et donc il y a autre chose dans le Messie, c'est que le Handel a fait en sorte que le Messie soit une œuvre plastique et ouverte, car il a changé énormément d'air en fonction des interprètes. Et je me souviens de l'étonnement qu'on a eu à entendre un enfant chanter sur scène, mais ce n'est pas contre la tradition du Messie que d'adapter le livret et le texte musical aux interprètes, et notamment ces oratorios et tous les opéras de cette époque étaient écrits pour beaucoup de castrats. C'est-à-dire que la volonté n'est pas claire, puisque la volonté est de prendre l'oratorio pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose d'hétérodoxe. Donc, ensuite, dans la réalisation, j'étais pas satisfaite, parce qu'on passe d'un moment sacré avec des lys dorés qui descendent du ciel, qui ressemblent à la descente du Saint-Esprit sur Terre, et en effet, cette crèche de Noël vraiment ridicule, avec des enfants, avec des parents qui prennent des photos, et qui assumaient ce ridicule en partie, je le pense. Donc, je comprenais pas où on allait, et je pense que à vouloir trop restituer le paradoxe de cet oratorio, on a perdu le spectateur. Et cependant, la fin avec la pluie d'or, on pourrait peut-être l'expliquer vis-à-vis de l'histoire musicale, on pourrait peut-être l'expliquer à la volonté de Handel de rendre ses opéras particulièrement spectaculaires, et notamment, j'ai noté que dans Rinaldo, qui est un de ses opéras, il a lui-même voulu faire un lâcher de moineau à la fin. Et peut-être que ça rappelait cette pluie d'or. Enfin,
alors Florent, je te voyais faire un certain geste.
Mais c'était réagir par rapport à ce que disait Irène tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle disait que c'était pas un manque à la tradition. À la limite, enfin, je pense que c'est même pas le problème, quoi. Enfin, on peut changer une pièce tant que ça marche. Là, le problème, c'est que finalement, le résultat, c'était quand même un gros échec, quoi. Enfin, pour moi, c'était un peu le Concorde qui se prend l'hôtel, mais sans même avoir eu le temps de décoller, quand même, ce Messie.
Pareil, compliqué, pareil, pas forcément réussi. Il y a vraiment rien à sauver dans ce que vous avez vu à l'opéra, rien, Maxime.
Si tout de même, comme l'a déjà cité Irène, le moment où les lys d'or tombent du ciel était techniquement réussi et tout à fait à propos. Pareil pour ce que Florent désignait comme un fond d'écran Windows. Il faut savoir qu'au moment où l'arbre d'or apparaît, c'est un écran qui le dévoile en se soulevant avec beaucoup de lenteur à la fin d'un morceau qui fait la transition en fait entre le mode mineur et le mode majeur de la musique et qui annonce l'alléluia finale du deuxième acte. Et c'était clairement, pour moi, le moment le plus réussi de toute la mise en scène.
Florent, le Concorde, il s'est pris l'hôtel avant de décoller, mais est-ce que, quand même, dans le maigre interstice qui lui est resté, il n'y a pas quelque chose de bien qui s'est passé ?
Si, il y avait des très belles scènes, mais j'ai eu l'impression que c'était gâché par un espèce de populisme étrange. Et par exemple, mettre des gens qui faisaient du hip-hop alors que ça n'allait ni avec la musique, ni avec le décor, ni avec rien d'ailleurs. À part satisfaire une espèce de clientèle bourgeoise qui se dit « Ah ça y est, c'est Noël, tout le monde est réuni, on a même laissé rentrer des bougnoules à l'opéra », je vois vraiment pas quel intérêt ça avait.
Non, mais cela dit, remettre le sacré, elle voulait montrer le sacré dans le présent dans lequel on vit, pour montrer qu'il existe encore du sacré dans notre quotidien. L'hôpital est un lieu du sacré, parce que c'est le lieu de l'entraide entre les prochains. Mais c'est vrai que, comme dit Florent, à trop rester dans l'actualité, parfois, elle insérait des éléments qui étaient là pour faire actuel, sans avoir de sens vis-à-vis d'un sacré quotidien, d'un sacré contemporain.
C'est effectivement la volonté de Deborah Warner, essayer de montrer le sacré dans la trivialité de notre quotidien. Mmh. Et apparemment, vous êtes resté à la trivialité du quotidien. C'est donc une faute de mise en scène, mais la volonté était là.
Si tu veux, le problème, c'est, je pense que le cas de la crèche faite par les enfants sur scène est un peu l'archétype de ce qui a pas marché dans
et
cette pièce.
Ça vous a beaucoup marqué, apparemment. Hein.
Bah oui, enfin, il y avait ça, mais même le premier chœur se passait dans une espèce d'église, oui, qui était symbolisée par des bancs alignés, ce qui suffisait, mais en plus derrière, il y avait une projection d'un Christ cucu sur un écran géant, genre un Christ comme ce qu'il y a sur les dépliants des évangélistes de mauvaise qualité, tu vois, enfin vraiment le. Un Christ rose bonbon, tu vois, ce petit côté un peu dégueu de la religion catholique.
Un Christ cucu, quoi.
Voilà, un Christ cucu. Et moi, j'ai eu l'impression pendant toute la première partie qu'il allait avoir une construction d'une espèce de critique de comment la religion était mise en place, surtout que Deborah Warner a été élevée dans une famille très croyante. Et Quaker. En fait, c'était juste des Quakers. Et donc, ça marchait pas, quoi. Enfin, elle a pas choisi. Il y avait des moments où on avait l'impression que ça esquissait une critique de quelque chose, ou au contraire des moments où c'était très beau. Et les deux ensemble, ça faisait juste que ça marchait pas.
En fait, le projet initial est intéressant, montrer le sacré dans le quotidien. Mais le résultat, c'est l'inverse. C'est on a l'impression plutôt d'une invasion du quotidien dans le sacré et d'une destitution du sacré. Justement, la scène dont on n'arrête pas de parler et qui est assez révélatrice à ce niveau de la crèche, ça fonctionne comme une espèce de dégonflement total du sacré, puisque on a à la fois une illustration très kitsch, presque zéphyrélienne de la crèche, avec des couleurs flashy, des costumes juste pas possibles. Enfin, il faut imaginer quand même une troupe d'enfants déguisés en enfants, en animaux, avec des serre-têtes de lapins ou des choses comme ça, et un petit enfant de cœur qui vient chanter avec un track que l'on percevait quand même assez fortement dans la voix, tout seul sur scène, et je pense pas qu'il remplaçait un castrat, mais plutôt une soprano d'après le livret, au milieu de gens qui viennent en effet prendre des photos avec leurs appareils numériques et filmer la scène. C'est un non-sens absolu, vraiment.
C'est réaliste, ça rend compte précisément de la célébration de Noël telle qu'elle est aujourd'hui. J'ai joué à un ange, moi, et j'ai joué une Vierge Marie parfois. Enfin non, j'étais brune, donc ça marchait pas, mais je l'ai fait et je crois que...
C'est-à-dire ?
Non, mais je tenais l'enfant. Non, ah oui. Je jouais une bergère, je crois. Enfin bref, on s'en fiche.
C'était un
mais...
mouton, alors.
Non, j'ai jamais été un mouton. J'étais un ange et une bergère.
Un
mais cela dit, ah oui, un mouton, pardon. Mais cela dit, je trouve que, on avait vraiment des éléments du quotidien et c'était pas du tout abracadabrant. C'était réaliste cette scène de crèche. C'était vraiment une scène d'église le soir du 24 décembre. Mais justement, ce que tu dis quand tu dis c'est zéphyrélien, ça aurait été bien si ça avait été justement zéphyrélien avec un sens, avec quelque chose de burlesque ou voire dans l'esprit d'Endel baroque, mais c'était des morceaux de réalité collés à un texte sacré.
Et en tout cas, je suis très content de cette émission qui me fait ressembler à Mireille Dumas de plus en plus, puisque donc j'accouche tous mes chroniqueurs. On vient donc d'apprendre que Irène faisait partie de la crèche vivante de sa paroisse. Bravo! Alors, c'est ainsi que se termine notre voyage à l'opéra. Merci de nous être fidèles, malgré toutes ces confidences un petit peu triviales. Merci à Fabien aussi qui nous a prêté main forte à la technique. Encore merci à Patrick Azopardi pour sa passion et son partage. Alors j'en profite pour remercier au passage Sophie Jarja, l'attachée de presse de l'Opéra de Lyon, pour son travail et son aide précieuse, puisque c'est elle qui nous permet tous ces contacts à l'Opéra de Lyon. Alors, si vous avez une envie irrésistible de musique classique, déjà, ne la réfrénez pas, l'opéra vous tend les bras, courez-y, écoutez jusqu'au 14 décembre Messie, vous ferez votre propre avis, même si ici, les avis sont plus que mitigés. Vous pouvez d'ailleurs laisser des commentaires sur la page de l'émission pour crier au scandale si jamais vous avez adoré ce parti pris de Deborah Warner et sa réalisation. Sinon, le 13 décembre à 18h, ne manquez pas le concert du Club de Musique de Chambre, En salle des thèses, site Mono, avec au programme Debussy, Schubert, Ketelbé ou Shostakovich, un événement en partenariat avec Transistor qui l'enregistre et vous le rediffusera pendant les vacances comme cadeau de Noël, bien évidemment. Alors quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Spectateur. Vous pourrez notamment entendre nos critiques sur deux pièces que nous vous annoncions précédemment, Les Ombres de Peter Pan, qui seront jouées les 12, 13 et 14 décembre en Cantor à l'ENS, et Chambre avec vue sur le fond des mers, à découvrir jusqu'au 16 décembre au Théâtre des Marronniers. Encore un beau programme dans Spectateur, donc, d'ici là. Surtout, n'oubliez pas d'aller au théâtre, au cinéma ou à l'opéra. Bref, n'oubliez pas de vivre en Spectateur.